is the time to heal in America.
Voici Raphaël Jacob.
We more than double the number of votes needed to overturn the election in terms of provable illegal ballots.
Oh, la voix est un peu chambranlante. C'est la voix de qui, Raphaël Jacob?
C'est la voix de Rudy Giuliani, mais comment tu le présenterais, Philippe? Est-ce que c'est l'ex-maire de New York, l'avocat du président?
Ben, je pense que c'est l'avocat disjoncté du président.
Écoute, en même temps, parlons-nous peut-être une seconde de ce que cet homme-là était. C'était le maire de l'Amérique, tu vas t'en rappeler comme
tout
moi.
Tout à fait, après le 11 septembre 2001.
Après le 11 septembre, il avait été, écoute, vu très largement comme un leader extraordinaire et tu voyais, écoute, le triste spectacle auquel on a assisté plus tôt aujourd'hui comme avocat personnel du président, qui, doit-on le rappeler, qui n'est pas un avocat spécialisé en droit électoral et qui clairement ne savait pas de quoi il parlait.
Bon, alors tu parles de ce triste spectacle-là. Vas-y. Mettons ça en contexte, Raphaël. Ce matin, Donald Trump sur Twitter dit « Écoutez, à midi aujourd'hui, il y aura une conférence de presse super importante et dans cette conférence de presse-là, on va vous exposer un chemin très clair, très simple pour accéder à la victoire électorale. » Alors il dit « Soyez là, c'est très important. » Et cette conférence de presse-là, c'était pas celle de Donald Trump, c'était celle de Rudolph Giuliani. Alors, est-ce qu'il a présenté cette voie vers la victoire?
Bien, ce qu'il a présenté, si tu l'as vu comme moi, c'est une façon théorique qu'on pourrait utiliser pour frauder. Donc, tu as eu une espèce de démonstration de Giuliani. Écoutez, voici un bulletin qu'on envoie par la poste. Voici comment ça serait facile de l'utiliser pour frauder. Mais Philippe, c'est comme si je t'amenais dans un magasin ou un entrepôt, je te montrais le système de sécurité puis je te disais, regarde comment c'est défaillant, regarde comment c'est facile à voler. Ça ne veut pas dire pour autant que ça a été le théâtre d'un vol.
Mais non.
Si tu vas en cours, il faut que tu sois capable de démontrer non seulement que c'est assujetti à de la fraude en théorie, mais qu'il y a eu fraude. Et là-dessus, oui, c'est vrai qu'il y a des affidavits de façon isolée, qu'il y a des personnes à droite et à gauche dans différents États qui sont prêtes à jurer sous serment qui ont été témoins de fraude. C'est vrai. Mais crime, Philippe, il est question de dizaines de milliers de voix d'avance dans les États qui ont fait la différence pour Joe Biden. Ça nécessiterait une fraude massive. On le répète depuis 2 semaines et demie. C'est ridicule et il n'y a absolument rien de tel qui a été démontré aujourd'hui.
Raphaël, moi, je commence à être sérieusement inquiet. Là. Je suis ce qui s'est produit cette semaine, les événements au Michigan. Tu vas nous les raconter dans un moment. Moi, je trouve que tranquillement, là, ça commence à ressembler à un détournement de démocratie. Tu sais, au début, après l'élection, là, les gens disaient, il faut ménager la susceptibilité de Donald Trump. Ouais. Là, c'est lui 2 semaines, là, puis il va reconnaître le résultat de l'élection. C'est un gars qui a un gros égo. Ménageons-lui une voie de sortie élégante, puis ça va bien aller. C'est pas ça qui se passe. Là. Il est pas du tout en train de reculer. C'est tweet après tweet de dire... On a gagné. C'est de la fraude. Ils tiennent l'équipe Biden au courant d'absolument rien. Pas de meeting sur la sécurité nationale, pas de briefing sur la pandémie. C'est assez tragique et c'est unique dans l'histoire américaine ce qui est en train de se produire.
Et sais-tu quoi? Quand tu dis il n'est pas en train de reculer, j'irais plus loin que ça. C'est pas juste qu'il n'est pas en train de reculer, c'est qu'il est en train d'essayer de trouver de nouvelles façons de peut-être pas accepter ou même, à la limite, essayer de faire renverser les résultats de l'élection. Et ça m'amène un petit peu au point que tu viens de soulever, c'est-à-dire ce qui se passe avec le Michigan. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui, provenant de la Maison-Blanche? Que le président venait d'envoyer une invitation formelle qui avait été acceptée au leader de l'Assemblée législative du Michigan. Là, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent présentement qui vont dire « Qu'est-ce que ça change? C'est quoi le rapport? » Voici ce que ça change. En théorie, là, je te parle d'un point de vue strictement théorique, là. Les législateurs d'un État peuvent avoir le droit de choisir qui va au collège électoral pour certifier le résultat dans leur État de l'élection présidentielle. On sait que le Michigan a été remporté par un peu plus de 2 points de pourcentage par Joe Biden. On sait aussi que les 2 chambres de l'Assemblée législative du Michigan sont contrôlées par le Parti républicain. Donc, Donald Trump invite des leaders législatifs républicains, donc de son propre parti, à la Maison-Blanche demain. On s'entend-tu que c'est pas pour parler de golf, pour parler d'Inde du Thanksgiving? Ça va être pour essayer de leur tordre le bras, essayer de les convaincre de faire remplacer les grands électeurs pour nommer essentiellement des pions qui, une fois que le collège électoral se rencontre le mois prochain, iraient voter pour Donald Trump alors qu'il a perdu l'État du Michigan.
Que cette invitation-là, Raphaël, soit même acceptée, c'est un scandale en soi.
Absolument. Absolument. Et ces législateurs-là sont, je dirais, carrément, se font tirer dessus à boulet rouge dans leur propre État, parce que c'est exactement à cause de ce que tu dis. Comment pouvez-vous-même accepter d'y aller quand vous savez pertinemment ce que le président va vous demander? Et écoute, s'il y en a qui s'inquiètent en nous entendant parler de ça, mettons quand même les choses au clair. Je pense que tu vas être d'accord avec moi que les chances que ça fonctionne, cette espèce de stratagème débile-là, sont microscopiques. Mais en même temps, pense à ceci. Qu'est-ce qui arriverait si Joe Biden n'avait pas une avance de, disons, 74 grands électeurs là, au collège électoral, comme c'est le cas présentement, mais qu'il y avait juste, par exemple, un État qui pouvait faire la différence? Et disons que c'était le Michigan.
C'est après bonne question.
C'est inquiétant, là. C'est qu'on est en train de jouer sur des normes qui n'ont jamais vraiment été testées. Et tu sais, quand il était question, par exemple, il y a une couple d'années, de ben est-ce qu'on a le droit d'utiliser de façon unilatérale des fonds qui ont été octroyés par le Congrès pour la sécurité nationale, faire passer ça sur la construction d'un mur à frontière mexicaine. Tu sais, on testait les normes de ce qui était le pouvoir d'un président, mais ça n'avait pas des implications aussi profondes puis graves que ça. Là, c'est tester les normes démocratiques du pays.
Ouais.
C'est dangereux.
Et ce qu'on veut, c'est empêcher Joe Biden de s'installer correctement, de façon à ce qu'il rate son départ comme président, parce qu'il n'aura probablement pas eu tout le temps dont il aurait besoin. Et là, tu as un responsable de l'équipe Trump qui a déclaré, c'est CNN qui en parlait hier, qu'un des objectifs de l'administration à l'heure actuelle, c'était de créer le plus de feu possible pour que ça soit de plus en plus compliqué pour Joe Biden quand il va prendre le pouvoir de régler des trucs à l'international.
Ce qui est exactement le contraire, tu sais comme moi, de la norme aux États-Unis, la période de transition sert exactement à ça, à s'assurer que, justement parce que c'est un pays qui est tellement vaste, tellement complexe, qu'il y ait un maximum de temps permis pour que le président élu et son équipe s'installent et que, justement, cette transition-là, cette passation-là du pouvoir soit non seulement pacifique, mais qu'elle soit efficiente, qu'elle soit efficace pour le pays. Tu dis toi-même, l'objectif est carrément le contraire de ça. Et c'est pas juste que Biden va arriver avec plus de difficultés à gouverner, c'est qu'il va arriver avec une perception totalement fausse et mensongère d'illégitimité autour de lui. Ça aussi, d'un point de vue démocratique, c'est grave. On peut pas, à chaque 4 ans, dès qu'il y a une élection, avoir le côté perdant qui ne digère pas la défaite et qui projette cette espèce d'aura d'illégitimité-là sur le président ou la présidente élue. Ça n'a pas de bon sens dans une démocratie.
Et pendant ce temps-là, tu as des leaders républicains qui se signalent par leur silence honteux.
Oui, le silence et la peur. Et la peur, ça montre à quel point, pour ceux qui pensaient que suite à une défaite, Trump allait tout simplement quitter dans le soleil couchant.
Ça se passe pas comme
c'est ça. C'est pas ça qui se passe. Je peux rester sur ceci?
Oui, rapidement.
Il nous reste 10 secondes.
Rapidement.
Le calendrier public du président depuis le 4 novembre, 2 lunchs avec son vice-président, 2 meetings, un événement pour le jour du souvenir. Autre que ça, absolument rien.
Et des messages sur Twitter. Hey, Raphaël, merci beaucoup. On va se reparler très bientôt. Merci d'avoir été là.
Bye bye.